Et les mélomanes.
Yalalalalalalalala. Là, il faut me donner le maximum.
L'émission de musique classique de Divergence FM.
Vous commencez beaucoup trop fort. Beaucoup trop fort. Voilà. Pas encore. Maintenant.
Et maintenant, nous partons pour le Brésil. Le Brésil, oui. Alors, deuxième hors-série de notre émission, suite Classicos Latinos, le Brésil, avec le grand compositeur brésilien, Heitor Villa-Lobos. Alors, vous connaissez pas ? Ah si, vous devez connaître. Si vous avez fait un peu de guitare classique, bah, vous avez certainement dû jouer des études, essayer de jouer en tout cas des études de Villa-Lobos. Et puis, sans même faire de guitare, vous avez certainement entendu cela. Eh oui, vous avez dû entendre ça pour 8 violoncelles et voix de soprano, hein, la Bachiana Brasileira, la cinquième, parce qu'il y en a 9 au total. Bachiana Brasileira, alors c'est quoi ? Ah, difficile à traduire, Bachiana, ça ne fait pas référence au Bacchanal, non, du tout. Ça fait référence à Jean-Sébastien Bach. Hein, alors c'est des bachiennes brésiliennes, voilà. Et là, c'est avec le violoncelle, parce que c'était un des premiers instruments dont le tout jeune Villa-Lobos a joué. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de Villa-Lobos ? Ben, il est né au 19e siècle, hein. C'est quelqu'un qui est né en 1885 à Rio de Janeiro. Hein, excusez la prononciation, je ne parle pas le brésilien couramment. Hein. Il y est mort en 1959. Alors, je fais une émission d'une trentaine de minutes sur Villa-Lobos. Alors, ça va être terriblement frustrant parce qu'on dit de lui, c'est le compositeur aux 1000 œuvres. Hein, il a écrit énormément. On aura à peine un aperçu, à peine un petit clin d'œil sur sa musique si vous ne connaissez pas. Alors, il est né en 1887 dans un pays qui était sous un régime militaire, oui, mais qui s'acheminait quand même vers un certain progrès. Puisqu'en 1888, il avait un an et quelques mois, c'est l'abolition de l'esclavage au Brésil. Il y a la loi dite loi d'or là-bas, qui a été votée le 13 mai 88, et qui abolit l'esclavage. Alors, milieu modeste, mais pas tant que ça. Hein, ses parents reçoivent chez eux toutes les semaines des gens appréciables. Ils tiennent salon. On fait de la musique dans la maison des Villa-Lobos jusque tard dans la nuit, jusqu'aux petites heures du matin. Et puis aussi des personnes qui sont sensibles à l'environnement parce que en 92-93, la famille elle doit quitter Rio pour quelques mois parce que son père a eu la malencontreuse idée d'écrire un article contre le pouvoir militaire en place. Donc, c'est pas une très bonne idée. Donc, ils sont éloignés. Bon, ça a duré 6 mois, et puis ils sont revenus à Rio. Alors, Villa-Lobos, formation en autodidacte, hein, c'est son père qui l'a lancé, si je puis dire, et qui l'a poussé à faire de la musique. Au début, c'est la clarinette qu'il va jouer, et surtout le violoncelle. Alors, comme il est très jeune, l'anecdote nous raconte, il n'y avait pas de petit violoncelle, donc on a pris un alto, c'est-à-dire l'instrument qui est un peu plus grand que le violon, mais qui se tient normalement sur l'épaule. Et puis, ils l'ont un petit peu adapté et ils l'ont joué comme d'un violoncelle. Donc, on a eu un violoncelliste altiste, je ne sais pas comment il faut dire, très tôt. Et puis, il a une tante aussi qui va lui faire découvrir la musique de Bach. Tout ça, Villa-Lobos a juste quelques années. Mais lui, quand il va grandir, ce qu'il va surtout aimer, c'est la rue, c'est les musiques qui se jouent dans la rue. notamment une musique qui est née quelques décennies plus tôt au Brésil, ce qu'on appelle les choros. Alors, choro, c'est quoi ? C'est les lamentations, les pleurs. C'est pas triste, les choros. Mais ça se joue en petit groupe avec une guitare à 7 cordes, puis une petite guitare à 4 cordes, l'ancêtre du ukulélé. Et voilà, et puis de la flûte ou des instruments avant. Et il adorait ça. Et il fuyait dans la rue, c'était mal vu, parce qu'en général, c'était des musiciens de rue, vous savez, c'est pas. Hein, c'est pas voilà. Alors, tenez, par exemple.
Primeiro amor, valsa executada por Patácio Silva, para casa Alto Rio de Janeiro.
Alors ça, c'est un choro par un flûtiste célèbre à l'époque, Patapio Silva, qui est né un peu plus tôt que Villa-Lobos. Il est né en 1880. Il est mort assez tôt, 1920. Donc oui, vous comprenez la qualité du son, puisque on a un enregistrement qui est antérieur à 1920. Voilà, il aimait bien jouer avec ses musiciens. Il avait de la guitare, je vous disais, il y avait de la guitare souvent dans ses groupes. Il aimait bien jouer de la guitare. Et puis alors, son père est décédé, il n'avait que 12 ans. Il est décédé de la variole et du coup il est allé de plus en plus écouter ces musiciens, peut-être jouer avec eux, même jouer avec eux puisqu'il y a appris la guitare. Donc peut-être qu'avec Patapio Silva, ils ont fait le bœuf ensemble, on peut très bien l'imaginer. Hein. Le Brésil évolue, je vous disais on était 92, 93, 94, ça y est, la dictature militaire s'arrête et il va y avoir un président élu, et un civil, c'est pas un militaire, et on va avoir maintenant des successions de présidents qui seront à chaque fois élus. Ce qui ne veut pas dire que le Brésil était à l'abri de la dictature. Elle est revenue, et on voit qu'aujourd'hui, c'est hélas encore d'actualité. Et puis il va se mettre à composer, il va composer une première pièce pour guitare, c'est en 1900, donc il a 13 ans, hein, qui est pour sa mère, vous voyez, le jeune... Villa-Lobos est attentif à la famille. Et puis, il va grandir. Et puis, adolescent, entre 18 et 25 ans, dans les années 1905 jusqu'à 1912, il va parcourir le Brésil dans tous les sens, du nord au sud, du nord-est. Il va aller dans tous les États. Et puis, il va rencontrer des musiciens. Il va collecter des musiques traditionnelles. Fort de tous ses apprentissages, il va commencer à composer. Il va poser ses premières compositions sérieuses, hein, pas juste des compositions d'enfants, des chansons, de la musique sacrée, hein, un trio pour piano, des pièces pour guitare, pour piano, pour petit orchestre. Et puis, comme le violoncelle, c'est son premier instrument et qu'il y est resté attaché, hein, il vit en jouant du violoncelle dans les cafés, dans les cinémas. Vous savez, on était à l'époque du cinéma muet, donc il fallait des musiciens pour accompagner. Mais sa vie se passe plutôt bien. 1913, il va même se marier. Et puis, petit à petit, la consécration va arriver. Ses œuvres vont être jouées en concert, en 1915, un premier concert avec ses œuvres. Mais sa musique... Oui, bon, d'accord, mais c'est un peu moderne, un peu trop moderne, quoi. Alors, ça ne plaît pas beaucoup. C'était un petit peu la réaction à l'époque. Ce n'était pas juste une musique brésilienne avec des musiques traditionnelles qui s'inspiraient de musique traditionnelle. C'était une musique moderne de son temps. Alors, il en a dit quelque chose beaucoup plus tard. Hein, il s'est justifié sur ça. Il disait « Je n'écris pas des dissonances pour être moderne, pas du tout. Ce que j'écris est une conséquence cosmique des études que j'ai faites, de la synthèse à laquelle je suis arrivé pour refléter une nature comme celle du Brésil. » Oui, forêt amazonienne et tout, c'est quand même une nature hors norme. « Quand j'essayais de former ma culture, guidée par mon instinct et mon expérience, j'ai réalisé que je ne pourrais jamais arriver qu'à une connaissance réfléchie, de recherche, d'études, d'œuvres qui, à première vue, n'avait rien de musical. Ainsi, mon premier livre fut la carte du Brésil. Le Brésil que je parcourais, ville par ville, état par état, forêt par forêt, à la recherche de l'âme d'une terre. » Voilà, c'est ça, la musique de Villa-Lobos. qui s'est exporté, puisqu'il y a un compositeur français qui est allé au Brésil, qui était secrétaire de M. Paul Claudel, ambassadeur au Brésil à ce moment-là. Ce compositeur, c'est Darius Milhaud, qui a écrit des impressions brésiliennes, qui a écrit des saudades. Saudades, c'est le blues brésilien, si vous voulez. C'est un certain Villa-Lobos qui lui a fait découvrir la musique brésilienne. Puis il va aussi rencontrer plein de musiciens qui viennent au Brésil et qui l'apprécient particulièrement. Par exemple, un pianiste qui était très célèbre à l'époque et qui l'est resté encore un certain temps, Arthur Rubinstein. Et Villa-Lobos va se mettre à composer pour le piano. Tiens, pour le piano, il a par exemple composé énormément de pièces. Et par exemple, une série de pièces qui s'appelle, excusez mon portugais, A Prolo do Bebê, le prélude du bébé. Notamment, Rubinstein aimait bien jouer ses pièces. Tenez, le premier A Prolo do Bebê par Arthur Rubinstein. A Prolo do Bebê, le prélude du bébé, Villa-Lobos, joué par Arthur Rubinstein. Vous êtes sur Divergence FM 93.9 avec Mélie Mélomane. Alors, continuons la parcourir la vie de Villa-Lobos. Il a le soutien d'Arthur Rubinstein. Et puis ce côté moderniste de sa musique, ça va être tellement reconnu qu'il va devenir un des représentant du modernisme dans l'art brésilien. À partir du 1922, il y a un mouvement des modernistes qui s'organise et qui s'organise. Et il y a des architectes, il y a des poètes, il y a un petit peu de tout. Et du côté de la musique, il y a Villa-Lobos. Et une reconnaissance officielle qui arrive, parce que ça se passe tout ça en 1922 à peu près, il va recevoir une commande très officielle. Parce qu'il y a le couple royal de Belgique qui vient au Brésil. Alors on veut une musique spéciale pour les accueillir. Et on va commander à Villa-Lobos des musiques sur la guerre de 14-18 qui vient de se passer. Et donc il va écrire une symphonie. Il en écrira d'autres par la suite sur le même thème. Sa troisième symphonie qui s'appelle La guerre, et puis on aura une quatrième qui est La victoire, et une cinquième qui est La paix. Donc un cycle comme ça de symphonie. Je vous disais, Rubinstein le soutient. Rubinstein lui trouve des mécènes pour se payer le voyage à Paris, parce qu'à l'époque, Paris était quand même une capitale culturelle importante. C'est difficile, ça le soutient plus ou moins. En fait, son premier séjour à Paris, il ne va pas pouvoir rester longtemps, il va devoir assez vite en revenir. Il aura quand même fait, au passage, la rencontre avec un guitariste espagnol, un certain Andrés Segovia. Alors, si vous n'avez pas joué de guitare, ça ne vous dit rien, mais Andrés Segovia, ça a été le grand guitariste de cette époque-là. C'est lui qui a fait revenir la guitare dans le répertoire honorable de la musique classique. Avant, c'était... Bon, le flamenco, d'accord, ça va. C'était la musique classique dans toute la noblesse du terme, on va dire. Hein. Quand même, il y a un critique qui disait à l'époque, qui connaissait Villa-Lobos, quand il est revenu, qui écrivait quelque chose d'assez touchant. Villa-Lobos vient d'arriver de Paris. Toute personne arrivant de Paris est censée arriver pleine de Paris, alors que Villa-Lobos est arrivé plein de Villa-Lobos. Cependant, une chose le remua dangereusement, le Sacre du printemps de Stravinsky. Ce fut, m'a-t-il confié, la plus grande émotion musicale de ma vie. Vous voyez, comme quoi on a un compositeur qui s'intéresse pas qu'à la musique traditionnelle, mais bien à la musique contemporaine. Il retournera à Paris quelques années après, il y restera plus longtemps, 1927 à 1930. Ses œuvres seront jouées avec succès, il fera connaissance avec beaucoup de monde, avec un compositeur suisse qui est installé en France, qui est Arthur Honegger, avec un compositeur qui va être un des grands porteurs de ce qui allait devenir la musique contemporaine. Pour nous, c'est Edgar Varèse, avec un grand chef d'orchestre, Léopold Stokowski. Si vous connaissez Léopold Stokowski, c'est lui qui est le chef qui ouvre et qui dirige toute la musique du Fantasia de Walt Disney. Voilà. Et puis, il retrouve Andrés Segovia et il compose pour lui des études pour guitare. Et voilà une fin tout en finesse sur les harmoniques de la guitare. C'était Andrés Segovia qui jouait la première étude de Villa-Lobos. Alors une œuvre composée en 1930 et dédiée à Andrés Segovia, donc qui jouait ça. C'est un enregistrement, je crois, qui date de 1961. Alors, notre cher Villa-Lobos, il est devenu une gloire, j'ai envie de dire, de la musique brésilienne, du monde de la musique brésilien, porteur du modernisme avec notamment, il incarne ça au Brésil avec un jeune architecte qui est de 20 ans son cadet, vous savez, Oscar Niemeyer. l'architecte qui a bâti Brasilia à la fin des années 50, au début des années 60, et qui est devenu, qui a fait du Brésil une capitale de l'architecture mondiale. Il devient vraiment un personnage officiel, et pour tout ce qui touche à la musique, on va le solliciter. Il va s'occuper de l'enseignement à la musique, l'enseignement de la musique à l'école, dans les écoles primaires, avec les petits. Il va s'occuper du patrimoine musical pour protéger les musiques traditionnelles. Il va s'occuper de la vue musicale et des concerts, mais aussi des études supérieures. Il va notamment fonder le Conservatoire supérieur de musique du Brésil en 1942. Et il organise des choses étonnantes, notamment de gigantesques rassemblements de musique chorale. Il va réussir à organiser quelque chose où il y aura jusqu'à, attention, 40 000 élèves des écoles qui participeront à une manifestation chorale, qui chanteront. Alors, vous imaginez un chœur avec 40 000 voix. Mon Dieu. Et puis il est souvent invité ailleurs. Alors, il est installé au Brésil, mais c'est l'Europe, c'est les États-Unis. Les USA, c'était... Il avait quand même une espèce de prévention. Il a pu dire à une époque, je dirai aux États-Unis que lorsque les Américains voudront me recevoir, comme ils reçoivent un artiste européen, c'est-à-dire en raison de mes propres qualités et non de considérations politiques. Et oui, parce que entre le Brésil et les États-Unis, ça a souvent été tendu, et il y a une époque, c'était bon, une espèce de... Bon, on se respecte mutuellement, mais pas plus, quoi. Hein, une espèce de consensus mou. Bon, ça n'a pas toujours été si simple. Et puis, l'Europe, pendant des années, il a été coupé de l'Europe parce que guerre, tout simplement. Hein, donc, il a retrouvé l'Europe après la guerre. Et il va... après la guerre, il va être à des fonctions très officielles au Brésil. Il est fondateur et président de l'Académie de musique du Brésil à partir de 1945 jusqu'à sa mort en 1959. Il vient régulièrement en Europe, il vient régulièrement en France. Et puis en 59, il décédera d'un cancer. Alors, il a écrit des musiques, beaucoup de musiques, je vous dis 1000 œuvres. Alors, la Bacchanda Brasileira, que vous avez entendu tout à l'heure, c'était la cinquième, je vous ai mis le début. Eh bien, il y en a d'autres, il y en a 9. Alors, un petit extrait de la deuxième Bacchanda Brasileira qui nous raconte... on va voir si vous devinez ce que c'est, parce que c'est très imagé comme musique. Thank you. Et voilà, le petit train du paysan brésilien s'est arrêté en gare. Alors, ben voilà, Villa Lobos, c'est extrait de la deuxième Bacchiana Brasileira. Hein, et les interprètes, ben c'était l'orchestre Simon Bolivar du Venezuela, dirigé par Eduardo Mata. Alors, ben voilà, et donc je vous disais, 1959, il décède d'un cancer. Un grand poète dira de lui et de sa musique, c'était un spectacle. Il y avait du vent dans les bois. Il arrachait et tourbillonnait des branches et des feuilles. Puis il tombait sur la ville pour frapper contre les fenêtres, les ouvrir ou les déchirer, se répandant jusqu'aux maisons, renversant tout. Quand la fin du monde semblait être arrivée, il ralentissait. C'était une douce brise dans l'air. Ce n'est qu'alors que j'ai réalisé que c'était de la musique, que ça avait toujours été de la musique. Ça, c'est le poète Carlos Drummond de Andrade, un grand poète brésilien. Me dit-on, je ne connais pas plus son œuvre que ça. Voilà, et ben, restera une gloire nationale. En 61, même un musée qui lui est consacré. Et nous, il nous aurait fallu 10 émissions pour faire entendre un peu plus de la musique de Villa Lobos, qui est d'une richesse, très très grande richesse, puis je vous dis 1000 œuvres à peu près. Écoutez, peut-être qu'on en fera une autre. En attendant, bonnes écoutes musicales pour vous, plein de découvertes, et à bientôt. Méli Méloman.
Là, il faut me donner le maximum.
L'émission de musique classique de Divergence FM.
Vous commencez beaucoup trop fort. Beaucoup trop fort. Voilà. Pas encore. Maintenant.